dimanche, RKS vous donne rendez-vous dans les salles obscures.
Ciné 7 sur RKS.
I am your father.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve comme tous les dimanches soirs à 19h pour une nouvelle émission Ciné 7, une nouvelle et plus ou moins une dernière émission. On en reviendra tout à l'heure sur ce terme, oui, malheureusement, puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Vous assistez probablement à la dernière vraie émission de Ciné 7 de la saison, au moins. En tout cas, je suis heureux de retrouver ma bande originale après 2 semaines de trou.
Est-ce qu'on t'avait manqué ?
Ouais.
Bof,
plus ou moins.
Tu te débrouillais bien sans
nous. Ah, tu te débrouilles, ouais, tu te débrouilles très bien.
Ouais, mais j'ai appris à faire sans vous et je pense que c'était une bonne idée. Bref, en tout
remplacer
cas...
Remplacer si facilement.
C'est ça. En tout cas, on espère que les vacances furent bonnes, Marvin.
Très bien, merci. J'avais les doigts de pied dans le sable, c'était très bien.
Ouais, bah...
Et je reviens en forme pour la dernière.
Ouais, t'as intérêt.
Bah ouais.
Intérêt, tu nous as fait rêver déjà avec ta plage là, t'as intérêt de revenir en forme. En tout cas, dernière émission, mais pas des moindres, puisqu'on a quand même un sacré sujet aujourd'hui, mine de rien. On va s'attaquer pas à n'importe qui, puisqu'on va faire un focus pour terminer cette saison, et un focus sur un sacré réalisateur. Mais avant de parler de ce focus-là, Jade n'a pas parlé. Jade, comment vas-tu ? Ces 2 semaines de stage, telles constructives ?
J'aurais préféré être à la plage, mais écoute, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie.
Ouais, mais la plage va arriver, j'imagine.
Oui, bientôt.
Ça fait plaisir, ça aussi. Donc, en tout cas, un focus sur un gros réalisateur. Qui m'en parle, s'il vous plaît ?
Je vais m'y mettre, moi. L'un des réalisateurs les plus en vogue en ce moment, depuis quasiment maintenant 20 ans, c'est Christopher Nolan, qui nous a sorti bon nombre de bons films qui ont plus ou moins énormément marché au box-office, qu'en soit en termes de critique ou en termes de budget, tout simplement. Enfin, ça a rapporté énormément. Et bien, il y a beaucoup de fanboys de Nolan, donc on va essayer de brosser dans le sens du poil, mais en ayant notre avis à nous.
Oui, et puis c'est un réalisateur, pour ceux qui connaissent l'émission depuis le départ, c'est un réalisateur qu'on connaît, puisqu'on en a déjà parlé avec le top, la trilogie du Dark Knight qu'a réalisé Nolan. Et là, on revient sur sa filmographie un peu plus, je trouve, un peu plus Nolan, puisque le Dark Knight ne rentre pas dans les codes qu'il a l'habitude, mais on reviendra dessus pendant l'émission. En tout cas, on va pouvoir attaquer tout de suite avec Inception, si je m'abuse.
Je sais pas, on n'avait pas fait d'ordre précis avant l'émission, mais on va commencer par Inception.
On a dit Inception, et puis bon courage à la personne qui va faire le résumé, parce que ce sera pas moi.
Non, mais ce qui est bien d'avoir fait directement le Dark Knight, c'est que du coup, ça nous a déjà 3 films. Une bonne épine du pied. Parce que du coup, on a pris quand même les 3 films les plus populaires pour tout le monde.
Quand on enlève le Dark Knight, oui.
Quand on enlève le Dark Knight, souvent, c'est les 3 qui reviennent. Donc tant mieux, c'était plus facile à choisir.
C'est clair. Et en tout cas, ce qu'on va faire du coup avec Inception, c'est qu'on va attaquer directement par de la musique, enfin par une chanson, puisque c'est la seule chanson qu'on va avoir ce soir. Et on va retourner avec une chanteuse qui est chère à ma chérie, puisqu'on va revoir Edith Piaf avec Non, je ne regrette rien, qui est une chanson qui est très importante dans le film pour ceux qui l'ont vu. Et on se retrouve tout de suite sur Radio RKS pour la dernière de Ciné 7. À tout de suite.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux.
balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi.
Ciné 7, l'émission cinéma de RKS.
Et oui, pour la dernière, vous allez avoir du jingle parce qu'il faut qu'on les utilise, nos beaux jingles, on va les user comme il le faut. En tout cas, c'était donc « Non, je ne regrette rien » par Edith Piaf dans la bande originale de Inception, pour ceux qui ont reconnu la chanson, j'imagine. La bande originale peut-être un peu plus compliquée, mais en tout cas, c'est une chanson qui est très importante dans le film pour ceux qui l'ont vue. Je vais m'attaquer à la description de ce film.
Vas-y, on te regarde faire.
Bon courage. Ça ne va pas être très simple, comme à peu près les trois films qu'on va avoir ce soir.
Je pense qu'on se mette d'accord direct. On va essayer de ne pas trop spoiler, parce que c'est vrai que c'est des films à découvrir, les Nolan.
Oui.
Donc c'est je pense que ton résumé va être plutôt simple si tu t'arrêtes au bon moment.
Ouais. Plus ou moins.
On t'écoute, Kylian, vas-y.
Alors, l'idée, c'est que on a un personnage joué par Leonardo DiCaprio qui est à la tête d'une société. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment bien légal ce qu'ils sont en train de faire, qui manipule les gens en les endormant, en se faufilant dans leurs rêves pour leur soutirer des informations plus ou moins secrètes. Voilà. Donc c'est pour ça que l'activité n'est pas vraiment légale, puisqu'ils sont employés par un tiers pour soutirer des informations à un autre tiers. L'idée, c'est que donc, voilà ce qu'ils sont en train de faire, et ils vont être embauchés par quelqu'un pour introduire dans l'esprit d'une autre personne l'inception, comme ils disent dans la version française, c'est-à-dire une idée introduite dans les rêves qui va donner l'envie à cette personne de la faire en vrai. Je sais pas si c'est vraiment très clair.
Il faut surtout en fait lui faire croire que c'est la réalité.
Voilà.
Il faut absolument pas qu'il pense que c'est un rêve. Mmh. Donc il faut que la partie son subconscient soit d'accord avec l'idée que du coup Dominic Cobb, donc du coup le personnage qui est interprété par DiCaprio,
ouais,
souhaite mettre en place. Et je pense qu'il faut préciser du coup que Dominic Cobb à ce moment-là il est recherché. Il est fugitif parce qu'il est accusé du meurtre de sa femme avec qui il était, c'était sa collègue de travail, quoi, tout simplement. Et pour une raison qu'on ne va pas vous dévoiler ici, sa femme est décédée. Il est donc recherché.
Joué par Marion Cotillard.
Voilà. Et l'une des personnes qui... Alors, je ne sais plus quelle société, il s'appelle Saito, non ? Il a le pouvoir de faire en sorte d'acquitter ses peines. Enfin, c'est les mesures qui ont été prises contre lui, les poursuites. Si, en échange, Dominic Cobb, il fait en sorte du coup que la fameuse personne qui est du coup son concurrent direct au niveau de son entreprise, tout simplement, je crois qu'il vend leur fonds carrément,
qui
démantèle l'entreprise pour que l'autre il ait en fait le plein pouvoir, tout simplement.
Exactement.
C'est un chantage comme un autre, mais c'est un chantage.
Et donc, pour ça, ils vont devoir mettre en place le mécanisme de l'inception, donc de l'inception, en emboîtant un rêve dans un rêve dans un rêve. Trois niveaux de rêve pour manipuler le subconscient de la victime. Et voilà toute la force du film, c'est-à-dire de jouer entre rêve, réalité, niveau temporalité, parce que entre chaque niveau de rêve, la temporalité n'est pas la même. Et vous allez voir que, enfin, pour ceux qui connaissent un peu et pour ceux qui ont envie de regarder le cinéma de Nolan, c'est un peu comme Pulp Fiction, c'est-à-dire que Nolan aime beaucoup, beaucoup, beaucoup manipuler, tester et créer des choses avec les temporalités différentes. Et donc dans Inception, c'est clairement ce qui se passe. Donc si vous avez... C'est vraiment, en fait, pour moi, le cinéma de Nolan, c'est un cinéma que si vous décrochez deux minutes...
T'es mort.
Vous n'allez plus rien comprendre et vous allez rester deux heures devant le film en disant « Je ne comprends plus rien ».
Ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'au fil des années, on a fait du cinéma de Nolan un monstre incompréhensible. Alors que, certes, il fait des films au scénario complexe, mais rien n'est hors de portée pour quelqu'un qui suit du début à la fin. Parce que dans chaque film, il sème des indices, et quand on suit, c'est très très clair, et c'est assez difficile de se perdre.
Oui, il faut suivre. Mis à part le Dark Knight, pour moi, tous ces films, il faut les suivre, sinon on capte chi.
Mais on a les réponses quand on suit bien. Notamment Inception, il y a eu un gros débat sur la fin. Quand on regarde bien le film, la fin, on la comprend.
Ouais,
c'est clair. Bah, au moins, avec ce genre de film-là, il t'invite à ne pas être ton smartphone et justement à regarder pleinement le film.
C'est sûr. Si tu ouvres un snap, c'est foutu.
Ouais, voilà. Non, mais entre guillemets, il crée ce film-là plus ou moins ambitieux. Bah, il a envie quand même derrière que tu lui accordes 2h30 de ton temps, qui est rien sur une semaine par exemple. 2h30 de ton temps pour pouvoir justement apprécier à sa juste valeur le long métrage.
Après, c'est aussi du cinéma de cinéma, on va dire. Moi, je trouve que les films de Nolan, c'est vraiment des choses qui s'expérimentent directement dans le cinéma, sur grand écran, dans la plus grande salle possible. Je l'ai fait pour Interstellar, je l'ai fait pour Tenet. Bon, celui-là, on n'en parlera peut-être pas parce qu'il a un peu
fait débat.
Mais je trouve que c'est vraiment du grand cinéma et c'est tout de suite moins impressionnant sur un petit écran.
Ouais, c'est sûr. Mais d'où ce point-là aussi, c'est qu'au cinéma, on est quand même beaucoup moins tenté d'aller sur le téléphone, d'aller regarder ailleurs, de faire autre chose.
C'est beaucoup plus immersif.
C'est clair. Et pour moi, c'est vrai que je ne sais plus lequel j'avais vu au ciné où j'avais plutôt bien apprécié. Et les autres, je les avais découverts à la télé ou sur Netflix. Et j'avais moins apprécié parce que j'ai tendance à être moins attentif, justement. Et donc là, pour l'émission, je les ai revus. J'ai fait l'effort de les revoir complètement. Parce que je savais que la première fois, je les avais mal suivis. Et finalement, c'est vrai
ça
passe beaucoup mieux.
Bah, j'ai découvert le Prestige, on va en parler il n'y a pas longtemps, même pas pour les besoins de l'émission, c'était un hasard en fait. Et j'ai un écran géant chez moi, j'ai un vidéoprojecteur, donc je me suis dit, je vais me faire une petite séance. Franchement, pas de regret.
Et du coup, on parlait de Nolan, mais on n'a pas vraiment expliqué qui est Nolan, parce que c'est quand même, on va dire, une grosse figure de cinéma. Donc déjà, beaucoup de personnes pensent que Nolan est américain, et en fait, pas du tout. Il est né à Londres,
il est
à Westminster.
Je t'ai dit, britannique,
oui,
américain.
Il a la nationalité américaine.
Je ne sais pas s'il a la nationalité, il a dû être naturalisé à force.
Ses deux parents sont 100% anglais. Donc du coup, Nolan qui nous a livré 11 films, il y a pas longtemps encore 10, mais du coup avec Tenet ça fait 11. Donc,
c'est
du coup, on a...
ce qui est pas mal d'ailleurs. Pour
exactement.
Cinématographie,
On va avoir Following qui sera son premier film qui a été sorti en 98 de mémoire, Memento en 2000, Insomnia, la trilogie The Dark Knight, Le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque qui revient sur le débarquement tout simplement, et Tenet.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cinéma qui est tellement apprécié que la quasi-totalité de sa filmographie est disponible sur Netflix. Les trois films dont on va parler ce soir le sont. La trilogie du Dark Knight y est toujours, je crois.
Oui.
Dunkerque aussi. Et c'est déjà pas mal.
Et on a Memento qui est sur Amazon Prime.
Ouais.
Et donc du coup, Nolan, c'est quelqu'un qui est un passionné de cinéma depuis tout petit. Même déjà à partir de 8 ans, il commençait déjà à tourner sur des Super 8. Donc pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez c'est quel genre de caméra. Donc c'est vraiment à l'ancienne pour le coup, avec des formats très courts. Nolan, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les effets pratiques. Il utilise quasiment, pourtant c'est un homme de blockbuster, mais il utilise énormément d'effets pratiques. On l'a vu notamment dans le dernier simplement Tenet avec la scène de l'avion pour ceux qui l'ont vu, ou même du coup Inception avec la scène de l'ascenseur et du couloir. C'est des effets pratiques, il n'y a pas de CGI là-dedans. Il veut vraiment avoir le cinéma le plus ambitieux, mais en même temps le plus on va pas dire ancien, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais avec les anciennes méthodes en fait qui étaient innovantes, traditionnelles, voilà, cherchez le mot. Nolan, il a jamais été seul dans ces films-là, il a toujours été avec son frère. Son frère qui s'appelle Jonathan Nolan, qui est son co-scénariste, pour des raisons X ou Y, à partir de Dunkerque, ils ne collaborent plus ensemble.
Et ça se sent.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, ça se sent au niveau de la. En fait, Nolan, il a vraiment énormément de problèmes. Moi, je trouve que c'est au niveau du traitement de ses personnages. Et je pense que c'est grâce à Jonathan Nolan qu'on avait des personnages qui étaient plus ou moins bien travaillés. Et à partir après de Dunkerque jusqu'à du coup Tenet. Et c'est vrai que les personnages, je les trouve toujours...
Le protagoniste,
ouais. Typiquement.
Et il a des problèmes avec les traitements de la mort aussi.
Ouais, aussi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, Nolan, il a quelque chose qui fait énormément, alors un petit peu moins maintenant, mais souvent, ces personnages masculins ont tous perdu leur femme. Si vous comptez Memento, on compte Le Prestige.
On est en train de retrouver un petit truc avec Tim Burton.
On compte Bruce Banner. Bruce Banner, qu'est-ce que je dis Bruce Wayne.
T'es encore dans l'émission Marvel
Oh, c'était il y a deux semaines. Trois semaines, pardon. Après, on compte aussi du Queen Samson, ouais. Interstellar. Il y a toujours la fameuse femme qui est morte à chaque fois. Et un peu une quête d'identité sur le personnage.
Est-ce que ça a à voir avec sa vie perso?
Non, il est marié, heureux, avec des enfants.
Et du coup, son premier long métrage, donc du coup, comme
peut-être,
je dis, c'est...
Peut-être que comme Tim Burton, il a envie de tuer sa femme, on ne sait pas.
Mais c'est bien de pouvoir assouvir ses pulsions à l'écran, c'est mieux qu'en vrai.
C'est vrai.
Donc son premier long métrage, c'était Following. Donc du coup, sorti en 98, de base, c'était même pas prévu pour le cinéma. Et il a été sorti après à la télé et au cinéma. De base, c'était vraiment... je crois bien que c'était quasiment en fait, un peu de la série B, entre guillemets. C'était fait avec les effets du bord. Et il a tellement bien marché que derrière, il a pu collaborer très rapidement, par exemple avec Guy Pearce, pour Memento, qui est un acteur très marquant de sa génération-là. Donc on lui a confié quand même très rapidement, alors qu'il était assez jeune, des acteurs de renommée mondiale. Et ça montre que le personnage avait quand même du flair quoi, dans ses films.
Et lui, par contre, on avait souvent parlé des réalisateurs qui avaient un ou deux acteurs fétiches. Lui, c'est carrément un casting fétiche. Hein, on retrouve quasiment tout le temps les mêmes. On a souvent Christian Bale, on a souvent...
Michael Caine,
on a souvent.
Christian Bale, je suis pas d'accord. À part, oui, la trilogie et le Prestige.
Ouais.
Mais la trilogie, il y a pas le choix, quoi.
Oui, non, mais après, enfin, c'est des acteurs qu'on retrouve souvent aussi. Il y a aussi celui qui joue l'épouvantail.
Oui, c'est Ian Murphy, ouais. Oui, effectivement, oui. On a fini sur Nolan, je pense. C'est déjà pas mal. Il a créé sa propre boîte de prod, Cinq Hobbies. Je pense que vous voyez à chaque fois avec le petit labyrinthe au début de ses longs métrages. Voilà, donc ça montre que le mec
le logo est bien trouvé.
Ouais, c'est vrai.
Donc le mec il a bien percé. Donc du coup on revient sur Inception. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Family Simpson qui est sorti en 2010?
C'est que comme d'hab il soigne quand même pas mal les décors. Moi c'est un truc qui m'a marqué dans ce film.
Bah moi la scène à Paris je le trouve. Bah il faut dire que je suis amoureux de Paris c'est vrai, mais la scène de Paris est quand même assez folle avec toutes les transformations des rues, le jeu avec le pont de Bir Hakeim pour ceux qui n'avaient pas reconnu.
Qui d'ailleurs, on peut aller voir ces fameux lieux de tournage à Paris sans problème. Hein.
Mais tu sais quoi, quand tu connais pas Paris et que t'arrives pour la première fois, ça fait un peu cet effet-là, je trouve. T'es paumé.
Ouais.
Moi, ça m'a fait rire de la scène de Paris, de pouvoir avoir des Twingo, des Clio. C'était vraiment dans un blockbuster, je pensais pas voir ça.
Est-ce qu'ils ont vraiment tourné à Paris?
Oui, ils ont tourné à Paris. Par contre, par exemple, tu vois la scène du café, la fameuse scène du café, quand du coup... bon, je ne me rappelle plus des noms, mais...
Quand tout explose,
voilà, exactement. Ariane et Cobb, c'est ça? Voilà, quand Ariane et Cobb, du coup, Cobb, il recrute une personne pour l'aider dans sa Inception. Et il va lui expliquer comment ça marche, un rêve et tout. Et il va montrer qu'il peut, en fait, avec son subconscient, faire exploser des choses s'il veut. Et il y a des scènes comme ça c'est tout de la CGI. Évidemment, ça n'a pas explosé comme ça. Et en fait, le café, ce n'est pas vraiment le même.
D'accord.
Les gens qui sont devant, les fans qui sont allés voir, ils ressemblent pas du, enfin même le nom du c'est même une brasserie je crois, c'est pas du tout le même nom, mais en tout cas on peut retrouver quand même la façade de l'immeuble qui est vraisemblablement la même.
Mais d'ailleurs, il est aussi attaché à l'Europe et à la France parce que même dans Dunkerque c'est en France. Et,
ah bah, on a pas pu faire français ça.
Et je sais plus, je crois que dans un autre film aussi où ça se passe, il y a des scènes en France, je crois. Faudrait retrouver. C'est peut-être mon subconscient qui me joue des tours.
T'es net, non? Non, même pas, non. Je crois pas. Bon,
bref.
Pas que je sache. Moi, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça voyage pas mal dans ces films.
Moi, j'ai trouvé que Inception, ça a été l'un des films les plus ambitieux que j'ai pu voir. Je trouve que vraiment, le cinéma a été poussé assez loin. Déjà, les films de rêve, on en parlait déjà avec Eternal Sunshine, par exemple. Là, on est dans un film de rêve, mais à tendance plutôt action. Espionnage, moi, ça m'a fait penser vachement à un James Bond, quand on voit bien, surtout la scène de fin dans la neige.
Oui, ça nous rappelle les meilleurs James Bond et Dr. No.
Ça fait très James Bond, et en même temps, je trouve que ça a un peu une patte à la Heat de Michael Mann en 95. Ça, pour ceux qui l'ont vu, je trouve qu'il y a pas mal d'inspiration. Je pense que Nolan s'est fait bien plaisir sur son film d'espionnage. Et vraiment, on a même une palette de d'acteurs incroyables. On a Tom Hardy, on a Cillian Murphy, Michael Caine, DiCaprio, Ellen Page / Elliot Page. Ça fait quand même un sacré casting, quoi.
Puis c'est vrai.
Je pense que j'en ai oublié 20 000. Sûr. Oui, Joseph Gordon-Levitt.
Ah oui.
Le fameux.
Je suis particulièrement énervé que tu oublies.
Mais ouais, mais en même temps, tu me le cites pas, Jade. Donc écoute, moi je fais.
J'ai pas le papier dessus. Aussi dans Dark Knight.
Qui joue Robin. Exactement. Moi j'adore, c'est la scène justement, en parlant de Joseph Gordon-Levitt, c'est la scène du coup du couloir en fait. Donc les protagonistes vont dans un hôtel. Donc, du coup, à ce moment-là, je crois que c'est le troisième niveau de rêve. J'espère que vous avez suivi,
non,
du coup.
Le... C'est le premier.
Non, du tout. Le premier, c'est l'avion.
Moi, j'aurais dit le deuxième. Donc...
Attends, on va recommencer pour les gens qui s'y connaissent. Donc,
c'est
du coup,
le deuxième.
On a la réalité qui est dans l'avion.
Oui.
Ok, il s'endorme pour un vol de 10 heures. Ça marche.
Ouais.
Ensuite, nous avons le van.
Oui.
Avec Youssouf, qui est du coup le seul qui rêve encore, enfin qui est conscient à ce moment-là.
Mm-hmm.
Ensuite, nous avons l'hôtel.
Ouais.
Et ensuite,
médaille d'or.
La base.
La base enneigée et les limbes.
Ouais.
Donc, c'est le troisième. Deuxième niveau de rêve, mais le troisième réalité, on va dire.
Ouais.
Et du coup, dans ce scène-là, du coup, en fait, comme les rêves s'emboîtent, dans le niveau supérieur, il y a des tonneaux avec une voiture dans un van. J'espère que je vous suivais bien, je sais que c'est un peu compliqué.
Ouais.
Donc, voilà, Youssouf, donc le conducteur de van, fait des tonneaux. Et en fait, comme ça fait des tonneaux, dans la réalité, du coup, en bas, ça fera aussi des tonneaux. Est-ce que vous suivez, Ken? Est-ce que tu suis?
Oui, je suis totalement.
Suis. Et du coup, la scène, en fait, l'hôtel, le couloir, il tourne. Et en fait, c'est fait avec une centrifugeuse.
Mais c'était pas le même
comme dans
pour 2001.
2001
Ouais, la même chose.
Mais enfin, c'est vraiment, le même
mais justement,
mais ils ont pris le même système.
Mais, ouais, mais le décor, c'était pas du tout la même taille. C'était vraiment de... Je sais pas si vous avez vu un peu les making-of de Inception. C'est assez incroyable pour le coup. C'est vraiment balèze. Et en fait, par rapport à 2001 où le mec il avait pas le choix parce que c'était l'époque qui voulait ça, c'était en 1968. Là on est en 2010. S'il voulait, il pouvait faire de la CGI et il a pas voulu. Il a préféré faire un vrai décor. Et je trouve que c'est toute la beauté du geste.
Et même quand
j'apprécie énormément cette scène justement pour
même
ça.
Même quand ils volent dans l'ascenseur, c'est pas de la CGI.
Ils volent, c'est-à-dire?
Ils sont en apesanteur dans l'ascenseur quand ils les poussent.
Bah peut-être pas en vrai. Regarde, quand on voit
sur le contrat.
Les
astronautes. Et là du coup.
ça marche bien les astronautes quand ils font de l'apesanteur.
Mais c'est
il y a toujours des systèmes, même des simulations avant d'aller. Donc non, je pense que franchement, s'il peut éviter, il a toujours dit qu'il évite. D'ailleurs, le train qu'on voit au début dans les rues de Paris, non? Je sais plus, c'est dans le deuxième niveau de rêve.
Non, c'est pas dans Paris, je crois pas. Mais oui.
Le train qui défonce toutes les voitures sur son passage, c'est un vrai train qu'on a mis des roues. De camion en fait tout simplement, donc c'est un train qui est vraiment dirigé par un vrai conducteur, il n'y a pas de rail de train, ce n'est pas d'acide CGI.
Voilà. En même temps c'est tout à son honneur parce que c'est du travail et du budget, alors budget
si.
Je sais pas, rétrospectivement si. C'est plus cher que les effets, c'est plus cher,
mais
je trouve que ça marche bien, enfin même dans Tenet quand j'ai vu les dessous de la scène avec l'avion, c'est assez incroyable le timing, tu te dis qu'à 2 minutes près la scène entière elle foire.
Mais c'est ce qu'on disait avec Hitchcock aussi, c'est que c'était une des forces de ses films, c'est que comme la CGI n'existait pas, il a dû développer des techniques qui font que le film est beaucoup plus pur et beaucoup plus plaisant à regarder du fait que ce soit réel.
Juste, il y avait il y a quelque chose que je ne sais pas si vous savez, c'est que ce film-là est inspiré d'un animé japonais qui s'appelle Paprika.
D'accord.
Je vous invite à aller voir sur YouTube Paprika versus Inception et vous verrez qu'en fait la plupart des scènes que vous pouvez voir dans Paprika, que vous pouvez voir dans Inception ont été tirées de Paprika. Et il y a vraiment un gros, c'est quasiment du plagiat. Franchement, j'aime pas dire ça, mais c'est quasiment du plagiat.
Bah tu m'apprends quelque chose.
Et je t'apprends quelque chose, Kélène. C'est le but de l'émission. C'est le but de l'émission. On est quand même une émission musicale, donc faut rappeler que la bande son de ce film là et mon Dieu cette bande son a été faite par Hans Zimmer évidemment.
Non.
Non, sans déconner.
Encore lui.
Non, c'est vrai que Hans Zimmer, c'est avec Nolan, c'est un peu comme.
C'est un des films qui a le plus marqué.
Comme
je Sylvester crois,
avec Zemeckis ou ouais. C'est la bande son est assez incroyable. À chaque fois que ceux qui ont eu la chance d'aller voir des concerts de Hans Zimmer, à chaque fois cette scène-là, cette musique-là de Inception, le thème qu'on va vous passer très bientôt, elle est très présente à chaque fois. On dans tous ses concerts pour le coup.
Et ben go.
Ouais, c'est Hans Zimmer qui l'a composé, comme l'a très bien dit Marvin, et la chanson s'appelle Mombasa, si je me trompe pas. C'est pas ça que tu voulais dire?
Je voulais pas ça, je voulais Time. Je sais pas si tu l'as.
Non.
D'accord.
Non.
J'ai
Mombasa. Drame à l'antenne.
Ah ouais,
j'ai Mombasa. Sinon, j'ai du Hans Zimmer pour.
On passera
pour le prochain, si tu veux.
Bah oui, on fera comme
non,
ça.
Non, remets-nous un peu d'Inception.
Bon, on va écouter Mombasa, du coup, et puis on va se retrouver tout de suite après. Pour parler du prestige sur Radio RKS, on se retrouve pour la dernière de Ciné 7. À tout de suite. RKS.
Ça a coupé sec.
Ça coupe sec. Ça va...
Je t'ai connu un peu plus délicat dans tes transitions.
Il n'y a pas de transition là, c'est la musique qui est comme ça.
C'est pour ça. Eh bien allez, c'est à moi. On enchaîne avec Le Prestige, qui est un film un petit peu moins récent, 2006. Je ne sais pas si on avait donné la date d'Inception.
Oui, 2010.
2010. Un petit peu moins récent, mais pas moins complexe. À voir. Ce film, il parle de deux magiciens, Alfred Borden et Robert Angier, qui, alors au début du film, sont tous les deux assistants d'un autre magicien qui s'appelle Milton, et qui vont en fait entretenir une rivalité, puisqu'à la suite d'un accident sur un des tours de magie de Milton, la femme de Angier est tuée, un petit peu par la faute de Borden, et ils vont ensuite un peu prendre des chemins différents en essayant de faire carrière dans la magie. Le souci, c'est qu'ils se disputent le même tour, parce que c'est un tour qui rameute les foules, et le but est évidemment de devenir le meilleur magicien, sauf qu'il y a toute une histoire de... Bah alors, il y a un truc aussi avec Nikola Tesla, mais bon, ça je sais pas si on s'y attaque maintenant, parce que c'était
ouais,
un peu...
Ouais, tu nous as perdu direct là. Nikola Tesla.
Hein?
Tu nous as dit directement Nikola Tesla, on sait pas d'où ça... Enfin, nous, on sait d'où ça sort, mais pour les auditeurs...
Oui, bah j'essaye de m'y retrouver aussi. Hein. Et bref, du coup, le truc à retenir, c'est que y a une histoire de rivalité, et ils vont tous les deux se disputer un tour de magie, mais je peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, parce qu'on va déjà aller plus loin dans l'analyse.
C'est vrai. Oui, un film qui, je trouve, se regarde un peu mieux que Inception, c'est-à-dire qu'on peut plus, un peu plus facilement décrocher qu'Inception.
Donc, décrocher,
ce qu'on disait, ne pas rester fixe devant l'écran pendant deux heures.
Pourtant, il te demande est-ce que tu regardes attentivement. Donc, si
ouais,
tu réponds non,
c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Mais oui, mais c'est vrai qu'il faut être quand même assez attentif si on veut comprendre toutes les failles de la fin.
Ce film-là, de toute façon, est conçu comme un tour de magie. Donc, il faut regarder attentivement tous les indices qui sont laissés par le réalisateur pour comprendre facilement la fin. Moi, personnellement, j'avais compris la fin avant.
Comment tu te l'arras ?
Non, mais parce que j'ai analysé, parce qu'en fait, je déteste me faire avoir par les magiciens. C'est un truc, j'ai horreur par les illusionnistes, on préfère.
Moi, je vois bien Marvin à 4 ans devant un spectacle qui se met sur le côté de la scène pour voir
le gamin avec
pour voir le fil transparent. Ouais. Non, mais du coup, voilà, je voulais vraiment pas me faire avoir dans ce film-là, et je savais qu'il y avait un twist et tout, et je voulais le découvrir. Et effectivement, j'ai compris avant, et c'est rare parce que d'habitude, souvent, je suis un peu à deux temps sur les films comme ça, mais là, pour le coup,
Usual Suspect, tu l'avais ?
Je l'ai pas vu. Usual Suspect, je l'ai pas vu. C'est malheureux, je l'ai pas encore vu.
Moi, c'est à l'inverse. Enfin, j'ai toujours été relativement lente sur les tours de magie. Je comprends rien. Le tour de la femme coupée en deux. 20 ans que je cherche, toujours pas compris.
Alors il y a des sur Google Images, tu peux mettre ce tour-là est connu et on voit comment
c'est foutu.
Mais vous
voyez, même les trucs les plus basiques.
Après, il y a différentes explications, mais ouais.
En fait, t'as deux femmes et les deux sont contentionnistes et ils se plient dans les boîtes tout simplement.
Ça dépend.
Une laisse dépasser ses jambes, une laisse dépasser son buste.
Ça dépend. Des fois, c'est plus complexe. Il y en a qui, du coup, suite à ça, ont réinventé le tour parce que savaient qu'il était connu et donc l'ont rendu plus complexe.
Et du coup,
on aurait pu m'avoir, il n'y a pas de souci.
On peut juste parler du fameux tour de magie qui est utilisé là-dedans, donc ça s'appelle Le Prestige, donc comme le nom du long métrage.
Le tour de magie, c'est l'homme transporté.
Ah oui, pardon.
Le Prestige, c'est la révélation.
Oui, excusez-moi. Et donc l'homme transporté qui est en fait tout simplement le magicien qui est d'une porte, qui ouvre la porte et qui apparaît d'un autre endroit de la scène tout simplement.
Mais disons que les deux portes sont face à face avec une dizaine de mètres entre. Et en les ouvrant, on voit bien qu'il n'y a rien entre les deux. Enfin, c'est juste le cadre de la porte. Mais miraculeusement, de façon magique, le magicien arrive d'aller de l'une à l'autre en une demi-seconde.
Et l'opération se fait en vraiment moins d'une seconde. Et du coup, effectivement, il y a Yangui sous roche. C'est scientifiquement impossible. Donc, il y a une histoire derrière. Et donc, du coup, le premier qui va établir ça, c'est Alfred Borden, donc, qui est joué par Christian Bale. Et Robert Angier, qui est joué par Hugh Jackman, donc notre Wolverine, souhaite en fait tout simplement lui aussi trouver le fin mot de ce tour. Et en fait, il va vraiment se pourrir la santé pour trouver le fin mot de l'histoire.
Je trouve que ce film, il nous balade un petit peu parce qu'au début, on a tendance à avoir de la compassion plutôt pour Angier, pour le personnage de Hugh Jackman qui perd sa femme. Et plus on avance, plus on a un jeu de ping-pong où on se dit, mais en fait, c'est lui le gros con, mais non, c'est lui le gros con, mais en fait, les deux sont des gros cons. Et je trouve que non seulement on se fait manipuler dans les tours de magie, mais on se fait manipuler aussi dans la sympathie qu'on a pour les personnages.
Moi, les deux, vraiment, je les défends assez facilement.
Non, Jackman, tu peux pas.
Si, alors, je peux pas vraiment dire pourquoi, parce que ça spoilerait un peu le film, mais je comprends ses motivations par rapport, à la mort de sa femme, tout simplement. Je peux comprendre de ce fait-là. C'est chiant, je peux pas aller plus loin, mais ouais, j'aimerais bien plus le défendre.
On peut
faire
un disclaimer. Parce
non,
que...
non, parce que c'est vrai que ce film-là, je pense qu'il faut le découvrir. Ouais. Mais pour moi, les motivations sont quand même. Enfin, il y a une histoire où les deux veulent quand même leur mort à un moment.
Ouais.
Pour X ou Y raison, parce que c'est vrai que du coup, Robert Angier, il peut en vouloir à Alfred, parce que c'est un peu en partie à cause de lui que sa femme est malheureusement décédée, parce qu'il avait fait un nœud trop compliqué pour la femme, même si elle insistait. Il aurait pas dû l'écouter. Et en même temps, Alfred Borden, il peut se venger parce qu'il a voulu, enfin, il a failli être tué pour, on va dire, un quiproquo, entre guillemets. Il le voulait pas, évidemment, qu'il voulait pas que la femme de Robert Angier, elle meure. C'était pas son but. Mais, le mal était fait et c'était comme ça.
Il y a quelque chose que j'ai pas précisé qui est très important, c'est que ce film, au niveau de la chronologie, il reprend une trame que je déteste. Si vous me connaissez, il commence par la fin. Ça, j'aime pas, mais c'est très important puisque le film s'ouvre sur le procès de Borden, qui est accusé d'avoir tué Robert Angier. Mmh. Et de là découle toute l'histoire, puisqu'on apprend qu'ils étaient compagnons, enfin assistants et presque amis à un moment, malgré la rivalité. Et on se demande comment on en est arrivé là.
Et on peut aussi, du coup, on a une ligne directrice grâce au journal, on va dire un peu le journal intime de Alfred Borden, que Robert Angier va lire plusieurs fois durant le récit, pour nous indiquer à quelle temporalité on a affaire. Et on peut déceler ça grâce à des indices. Donc par exemple, à un moment du film, Robert Angier, il se casse le fémur, la rotule, enfin bref, la jambe. Donc il a une béquille. Et du coup, on sait que s'il a la béquille, c'est que c'est dans notre présent. Et s'il l'a pas, c'est dans le passé.
Oui,
c'est assez facile.
C'est comme pour l'autre, quand il est en tôle ou quand il l'est pas.
Oui.
Oui.
Ou quand il a des doigts.
Oui.
Et moi j'aime beaucoup c'est la scène d'introduction, donc du coup avec Michael Caine, qui explique en fait comment est fait un tour de magie. Donc je vais vous lire un peu la phrase parce que je la trouve très emblématique et la façon dont l'acteur le dit, je trouve ça très très grandiose quoi, très prestigieux. Donc du coup la phrase c'est ça. Donc chaque tour de magie comporte trois parties ou actes. La première s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire, un jeu de cartes, un oiseau ou un homme. Il vous le présente. Peut-être même si vous invite-t-il à l'examiner, afin que vous constatiez qu'il est en effet réel. Oui, intact. Normal, mais il est bien entendu loin de l'être. Le deuxième acte, s'appelle le tour. Le magicien utilise cette chose ordinaire pour lui faire accomplir quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret, mais vous ne le trouvez pas, parce que vous avez bien entendu pas regardé attentivement. Vous n'avez vraiment pas envie de le savoir, vous avez vraiment envie d'être dupé, mais vous ne pouvez vous résoudre. Vous pouvez vous résoudre qu'à applaudir, excusez-moi, parce que faire disparaître quelque chose, c'est une chose, mais le faire réapparaître, c'est autre chose. C'est pourquoi, pour chaque tour de magie, il existe un troisième acte, le plus difficile, celui qu'on nomme le prestige. Voilà comment s'ouvre le film. Et ça...
C'est assez clair, hein.
Ouais,
c'est assez...
Et du coup, ça
bouge bien, ouais.
Le
ça
film, en fait, gueule, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le film nous présente le fonctionnement d'un tour de magie et va nous faire exactement la même chose, puisqu'il est un petit peu en trois temps également, et qu'on a la promesse, le tour... Si j'ai bien compris, c'est ça. Et le prestige.
Et le prestige. C'est ce qu'on découvre à la fin.
Ce que j'aime bien, c'est aussi un peu petit disclaimer, c'est qu'à la fin, bah, y a vraiment de la magie, mine de rien.
Bah ça, moi, je m'y attendais pas trop parce que je me suis dit,
moi non plus.
Nolan, il arrive toujours à tout rationaliser. Ouais. À chaque fois qu'il fait sortir des trucs de son chapeau, il y a une explication. Des trucs tout bêtes, Interstellar, c'est très facile de justifier par l'espace, jusqu'à Tenet, où c'est un petit peu moins facile de justifier un retour en arrière. Mais il se débrouille toujours. Et je me suis dit, il nous a introduit Nikola Tesla, il va forcément servir à quelque chose, spoiler alert, bof.
Bah justement, je pense qu'on peut en parler rapidement de Tesla, donc du coup, c'est un moment où je vous ai dit que...
L'excellent David Bowie.
Voilà, exactement, j'allais dire. Donc Robert Angier, il souhaite faire le même tour qu'Alfred Borden, donc il va se rapprocher d'un scientifique, donc du nom de Nikola Tesla, qui est joué par notre David Bowie, qui est malheureusement décédé en 2016.
On le salue.
Donc à ce moment-là, c'est quand même un personnage assez... Pas fictif, mais voilà, il y a quand même des certaines libertés qui ont été prises dans le récit.
Ah oui, oui.
Et grâce à la bobine Tesla que vous connaissez tous, donc ce dispositif électrique, fait en...
Qu'on retrouve dans La La Land.
En cuivre, ah bon ?
Ah bon ?
Oui, quand ils vont en planétarium.
Ah oui, waouh. Wow. ça sert vachement au film. Et grâce en fait à cette bobine Tesla, donc pour je ne sais quelle magie, il permet de démultiplier des êtres. Ou même des objets, donc par exemple comme le chapeau de Robert Angier. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, Nikola Tesla. On comprend pas vraiment comment marche la machine. Bon, c'est peut-être pas le but du film, ça va peut-être nous perdre.
C'est parce que la bobine est plus ou moins introduite dans la scène où on voit. Je me souviens plus de son nom.
Dis-moi l'acteur.
Michael.
Non, je ne le parle plus. Michael Caine, mais j'ai plus le nom.
Non, mais pas Michael Caine, mais l'autre. Bref, quand on voit le magicien faire son tour, on voit un bout de la bobine. Et après, on voit Hugh Jackman aller rencontrer Nikola Tesla. Mais c'est juste comme ça qu'il est annoncé. Et c'est vrai qu'il nous tombe un peu dessus, genre en mode « Ah bon, bah, on met Tesla là, on ne sait pas trop pourquoi. »
D'ailleurs, on peut dire aussi que David Bowie, il est accompagné de Andy Serkis dans ce film-là. Enfin, on va dire que c'est un peu son majordome, entre guillemets. Voilà, c'est, qui joue, bah, du coup, Andy Serkis, on le connaît pour César, pour Gollum.
Et Andy Serkis qui joue aussi bien quand il n'a pas de masque.
Mais carrément, moi, je trouve que c'est un super acteur. Franchement, j'aimerais le voir plus souvent sans CGI.
Si je dis pas de bêtises.
Dans Tenet ?
Il n'est pas dans Tenet ?
Je sais pas, j'ai pas vu le film, je ne pourrais pas dire. Mais...
Franchement, je suis quasiment sûr, mais doute. Tu m'as mis un doute.
Non, je sais pas.
Tu vas vérifier.
On va vérifier tout ça. En tout cas, oui, donc c'est vrai que Tesla est un peu amené bizarrement. Je trouvais que David Bowie était assez propre, quand même, dans ce rôle.
Il est un bon acteur, hein, David Bowie.
Il rien, il a fait quelque chose de très, 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 très propre.
Moi, bon, j'ai dit des conneries, mais il aurait dû.
Mais en tout cas, encore un très beau casting et un film vraiment surprenant. Et que j'ai bien apprécié, moi, personnellement.
Vous pouvez retrouver sur Netflix, du coup, comme on vous a dit.
On peut retrouver sur Netflix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois films dont on parle ce soir sont sur Netflix.
C'est vrai. C'est rare,
il n'y a pas de souci. Ouais, c'est
ça arrive pas souvent. D'habitude, on dit toujours, ouais, il faudra passer par des choses pas très légales. Mais là, pour une fois, c'est totalement légal, à condition d'avoir un abonnement Netflix.
Et ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'il y a Scarlett Johansson aussi dans ce film.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on a oublié pas mal d'acteurs. Il y a énormément de gros acteurs.
Il y a quand même un sacré casting. Et en tout cas, c'est un film qui est surprenant, qui est peut-être un peu moins connu que les gros de Christopher Nolan, mais qui n'en est pas moins intéressant.
Bah, le problème, c'est vrai, c'est qu'il a souffert d'une trop grosse concurrence par rapport à Inception, à Interstellar, à Dark Knight. Enfin, c'est vrai que c'est un excellent film. Je pense que c'est même l'un des meilleurs de Nolan, mais effectivement, dans la culture populaire, bah, c'est pas celui qui a été plus vu, en tout cas. C'est malgré vrai. Les bonnes. Quand on voit. Moi, quand je regarde les tops sur IMDb, donc le site un peu américain qui retranscrit un peu les meilleures notes des films, il est souvent cité dans les premiers, hein, pour le coup. Et un des meilleurs de Nolan, pourtant. Et je pense que c'est très justifié, ce choix-là.
C'est vrai. Des choses à rajouter sur le prestige ou pas ?
Bon, je pense qu'il faut le découvrir. Hein. Pareil, il y a un gros twist à la fin, il faut le découvrir par soi-même. Et essayer de faire comme moi et de comprendre avant le prestige, quoi.
Oui, et il faut le suivre un peu, le twist, parce que il est pas. Moi, je l'ai pas trouvé hyper simple à comprendre, perso.
Ah ouais, ouais. Putain, je trouve très simple. Enfin, Jade, toi, tu le trouves
peut-être parce que je dormais à moitié.
Probablement. Moi, ça m'a pas choqué, mais je pense qu'il mériterait un deuxième visionnage, parce que pour le coup, je l'ai regardé qu'une fois. Je me suis laissé surprendre par la fin, mais je pense qu'en sachant le twist de fin, c'est beaucoup plus agréable de revoir les scènes.
C'est vrai.
Bah, c'est souvent le cas avec les Nolan.
Quand Jeanne m'a du coup dit qu'elle avait regardé, qu'on avait un peu parlé de la fin, je lui ai lancé encore une deuxième théorie par rapport à cette fin, donc je ne peux pas vous en parler, mais en fait, dans la fameuse scène, la fin, c'est une fin ouverte, un peu comme Inception avec la toupie. C'est une fin assez ouverte dans le prestige. Chacun a son interprétation. Et pourquoi pas, quoi. Il s'est jamais été confirmé par Nolan. Il aime bien laisser un peu des indices, des mystères sur tout ça pour que ça fasse encore parler, hein, derrière. C'est clair que tout ça, c'est une question, on va pas dire marketing, mais c'est juste pour faire parler de son film. C'est tout à fait à son honneur, entre guillemets.
C'est vrai.
On passe à Interstellar ?
Oui, on va pouvoir passer à Interstellar.
On se met une petite musique
et on revient. On accélère. Qu'est-ce qu'on écoute pour Interstellar ?
Vu le peu de temps qu'on a, on va mettre directement No Time for Caution. Si ça te parle, ça, elle est un peu plus connue que Stay. Et puis voilà, ça sera très bien.
Exactement. Donc on va, on vous rappelle, c'est la dernière de Ciné 7. On fait un focus sur Christopher Nolan. Restez bien avec nous parce qu'il nous reste encore Interstellar à parler sur le 97 FM. On se retrouve sur Radio RKS tout de suite après No Time for Caution de Hans Zimmer. A tout de suite sur RKS.
Ciné 7.
Ciné 7.
Alors, c'était No Time for Caution qui a été composé par notre Hans Zimmer. Donc, du coup, comme on l'a dit, c'est un peu le Danny Elfman de Tim Burton, un peu, entre guillemets. Donc,
oui,
du coup, ce film.
Il n'a pas fait que Nolan non plus, Hans Zimmer.
Non, mais oui. Mais la plupart des Nolan, depuis longtemps, oui, c'est Hans Zimmer qui compose ses BO.
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, surtout?
Ouais,
c'est clair. Vu le nombre de paquets de films qu'il a fait. Mmh. On n'a pas trop parlé d'ailleurs d'Hans Zimmer. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait trop d'émissions avec Hans Zimmer en compositeur, je trouve. Ça va, on s'est tenu. Donc, du coup, Interstellar qui a été sorti en 2014, donc réalisé par Christopher Nolan, avec comme acteurs principaux Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, McCoy Kane comme d'hab, Casey Affleck, donc du coup le frère de Ben Affleck, et Matt Damon, Timothée Chalamet, Mackenzie Foe, enfin voilà, encore une ribambelle.
Ça a de la gueule.
Timothée
quand même.
Chalamet.
Oui, son fils.
Il joue le
jeune Tom.
Ouais. Ah ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
On le voit très peu. Hein. C'est vrai que c'est celui qu'on. Il a pas un gros rôle.
Ouais, mais on le reconnaît quand même.
Voilà. Donc du coup, de quoi parle Inception ? Je vais essayer. Interstellar, pardon. Je vais essayer de faire au mieux parce que mon Dieu.
Parce que ouais, il faut y aller là.
Je vais vraiment synthétiser au max. Donc du coup, dans un futur proche, la Terre est de moins en moins accueillante. Parce qu'il manque de denrées alimentaires et il y a énormément de tempêtes de sable qui sont assez destructrices, que ce soit pour les vies ou même pour les abris, donc les maisons. Entre guillemets. Et il manque aussi de place. Quoi. Ça, c'est le fameux, la fameuse place qui va manquer
Thanos,
bientôt.
Thanos, il avait une solution.
Ouais. Thanos avait une solution, c'est vrai. Donc du coup, le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui est du coup porté par Murphy. Cooper, qui joue du coup Matthew McConaughey. Donc du coup ça parle d'un groupe d'explorateurs qui utilise une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et découvrir pourquoi pas soit une nouvelle civilisation ou alors une terre exploitable. Voilà.
Oui.
Je peux pas en dire vraiment
dans
plus.
Dans l'idée c'est ça. Hein.
Dans l'idée c'est ça. Après ils traversent différentes univers. Je sais pas comment on pourrait dire.
Il y a un moment où ils vont à l'administration française. Vous savez, la planète où une minute dure 5 heures. Là.
Voilà, le problème avec ce film, c'est qu'il est mine de rien compliqué à comprendre, ne serait-ce que pour les temporalités. Parce que ouais, le temps ne s'écoule pas de la même façon sur chaque planète.
Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus dur à capter, c'est la fin.
Avec le trou de verre et...
Avec la dimension quantique.
Ouais, ça c'est... Mon Dieu, on s'est cru dans Ant-Man, quoi.
Non, vraiment. Mais encore dans Ant-Man, genre, il nous dit... Ouais, c'est du quantique, on passe.
Cherchez
pas. On a trouvé, c'est fini.
Enfin,
voilà.
C'est du MCU, entre guillemets, donc ouais. c'est rapide.
Mais autant là, j'ai rien capté.
Mais par contre, la scène où il parle à sa fille, elle est incroyable.
Non, mais les scènes sont belles, le visuel est très beau, c'est très plein d'émotions. Mais par contre, même là, en le suivant du début à la fin, l'explication, je ne l'ai pas compris.
Et du coup, Cooper, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est faire un sacrifice, c'est abandonner son fils et sa fille. Ça va être beaucoup plus difficile avec sa fille parce qu'elle a vraiment besoin de son père. Donc, elle s'appelle Murphy, qui est interprétée par Mackenzie Foe, puis Jessica Chastain, qui va vraiment avoir, en fait, toute sa vie, avoir de la rancœur envers son père.
Parce qu'il l'a abandonné, tout ça.
Voilà, sauf que du coup, du côté de la fille, la vie s'écoule normalement. Mais c'est vrai que du côté du père... Je crois que c'est même pas plus de 5 ans, quoi.
Bah, en
même
fait,
pas. Le manque pire... est présent, mais pas à ce point-là, quoi, entre guillemets.
Parce que le pire, c'est la première planète où, sur laquelle une heure sur cette planète équivaut à 7 ans dans la temporalité terrestre. Et du coup, en fait, ils ont une merde sur la planète. Et quand ils remontent au niveau du vaisseau qui, lui, a la même temporalité que la planète Terre, et ben en fait, 25 ans s'est écoulé entre le moment où ils sont partis et au moment où ils sont revenus. Et
donc, alors qu'à l'écran, ça dure 30 minutes.
Voilà, à l'écran, ça dure même pas 30 minutes, ça doit durer, je sais pas...
15 minutes, même pas 15 minutes.
Un petit quart d'heure. Et du coup, en fait, c'est là qu'on comprend que, mine de rien, lui n'a pas vieilli, mais ses enfants sont beaucoup plus vieux. Et là, il y a un retour sur Terre. Et oui, effectivement, on voit que sa petite fille, qui était toute petite, qui avait un peu moins de 10 ans quand il est parti, maintenant est une adulte responsable et... Et aguerrie, parce que mine de rien, vous faites le calcul, un peu moins de 10 ans plus 25 ans, ça fait vite 35-40 ans.
Et elle a suivi son modèle d'ailleurs.
Exactement. Et donc, ça fait du temps écoulé, mine de rien. Et c'est ça, c'est son sacrifice, c'est de partir dans l'espace pour essayer de sauver l'humanité, avec comme seul rêve et but de revenir... revenir sur Terre pour retrouver sa famille.
Et d'ailleurs, la fameuse scène juste après ce fameux, on va dire, un peu naufrage, qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète. Oula, il y a un poster qui se décolle à côté de moi, où justement, ils apprennent, les héros, que leurs enfants ont maintenant grandi, ils ont leur âge, quoi, entre guillemets. Oui. Et chacun a laissé un mot, des archives qui datent de plusieurs années. Et on découvre du coup maintenant Jessica Chastain. Et on voit toute la palette d'émotions que peut nous sortir Matthew McConaughey.
Elle est horrible cette scène.
Qui est accessoirement devenue un mème aussi.
C'est devenu un mème.
À chaque fois que quelqu'un pleure, Sally Maguire s'en souvient.
C'est vrai que c'est utilisé, c'est rare, enfin c'est... c'est beaucoup utilisé dans les mèmes, mais pour le coup voilà, on peut vraiment, je crois qu'il a eu même c'est pas le meilleur Oscar, enfin pas le meilleur acteur, je crois que c'était peu Dallas Buyers Club qu'il a eu de mémoire, mais en tout cas 2014. il a été cité pour sûr, parce que vraiment il a fait du très bon job en 2 ans.
En même temps, en 2014 il y avait une sacrée sélection aussi, hein.
Il y avait une sacrée sélection, effectivement. Mais ouais, ce film-là, moi j'ai adoré, c'est surtout le fait que on a poussé le réalisme. Alors je dirais pas par rapport à tout ce qui est dimension quantique, mais le fait que comme dans Gravity, l'espace, il n'y a pas de bruit.
Ah ouais, ça c'est génial.
Et en fait, effectivement,
c'est exceptionnel.
Nolan, il nous posait la caméra, il nous faisait apprécier les scènes, et il faisait en sorte que il n'y a aucun bruit. Malgré, par exemple, moi je pense à la fameuse explosion le docteur, je sais plus son nom, mais qui est interprété par Matt Damon.
Docteur Mann, et avec, d'ailleurs, c'est la scène dont on a diffusé la musique. Là.
C'est juste après, ouais. C'est juste après quand ils essaient de raccrocher les wagons. Mm-hmm. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, se raccrocher à la base, en gros, à la station orbitale, quelque chose comme ça. Je suis pas très bon pour tout ce qui est le vocabulaire, l'exigence. Voilà. Et du coup, il y a la scène où le vaisseau est fait à 360 sur lui-même pendant plusieurs minutes. Et le but, c'est de raccrocher les wagons. Il y a cette fameuse scène qui est vraiment impeccable. Et pour le coup, il n'y a que de la musique. Mmh. Il n'y a zéro son. Et des fois même, il n'y a zéro musique pour pas mal de scènes. Ouais. Et aussi zéro son. Du coup, c'est vraiment le vide complet. Et on a vraiment l'impression d'être seul contre tous. Quoi. Vraiment l'immensité de l'espace.
C'est la scène de l'explosion qui est vraiment marquante vis-à-vis de ça. C'est qu'on a l'habitude, dans ces grands films, ces grands space opéras, d'entendre une explosion en effet sonore énorme et tout ça. Et alors que là, l'explosion, à partir du moment où l'explosion arrive... il faut savoir que toute la capsule se dépressurise et donc on est face au vide interstellaire, donc dans le vide, pas de son. Et donc à partir du moment où ça explose, on entend juste un petit quelque chose et plus rien pendant quelques secondes. Et c'est vrai que c'est marquant, c'est une scène du coup qui du coup marque vraiment, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça au cinéma. Et c'est plusieurs fois où on se retrouve face au vide, et Nolan veut nous montrer et nous pointer du doigt qu'on est vraiment face au vide interstellaire. Et comment il nous fait, en coupant tout son, tout musique, tout, enfin plus rien quoi, clairement.
Tout bruit. Et de toute façon, dans l'espace, personne ne vous entend crier.
Oui,
ça on le savait.
Ouais, bravo, pour Aliane.
Ça on le savait, mais en tout cas, c'est aussi une des forces du film, c'est qu'il a voulu chercher ces petits détails-là que j'ai trouvé plutôt très réussis par rapport à, mine de rien, Seul sur Mars, où des fois ils se foutent un peu de notre gueule. Et j'ai trouvé que là, il a voulu pousser un peu plus loin le réalisme et de dire, on va faire un très beau film sur l'espace, avec des décors magnifiques, avec une histoire qui est quand même assez poussée et bien réfléchie, mais on va le vouloir réaliste, on va vouloir y imposer de vraies questions, les questions qu'on se pose maintenant, transposées à un voyage interstellaire, parce que quand on voit des vrais films sur l'espace, enfin des films basiques sur l'espace, la seule chose qu'on se dit, c'est ouais, ça doit être trop bien, j'ai envie d'aller visiter, j'ai envie d'aller découvrir. Et là, il nous montre un peu quels seraient les vrais risques, quels seraient les vrais dangers et les questions qu'on pourrait se poser vraiment. Ouais. Voilà.
Après, ce qu'on ne peut pas retirer à Nolan, c'est qu'il fait toujours un travail de recherche assez incroyable sur ses films. Et même là, dans un sujet qui est très très pointu, il ne me semble pas que la communauté scientifique se soit trop retournée contre lui. Hein. Je pense qu'il a fait un bon travail.
Ouais. Justement, j'avais une anecdote, parce que Nolan s'est rapproché de scientifiques pour être le plus cohérent possible avec tout ce qui est l'astronomie.
Après, c'est des questions qui sont très compliquées, parce que on se base notamment sur le trou de ver, sur la théorie d'Einstein, une des théories d'Einstein, et il s'avère qu'actuellement cette théorie est en train d'être revue et d'être questionnée. Mais c'est des questions qui sont tellement compliquées à partir du moment... Ils le disent à un moment dans le film avec le trou noir, qu'est-ce qui se passe après l'horizon, tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas le savoir. Et les trous de ver et tout ça, ça reste des théories, des théorèmes, tant qu'on n'y est pas allé, on ne pourra pas le savoir. Mais c'est vrai que
j'ai pour l'instant, savoir,
c'est plutôt très bien fait.
Moi, j'ai une petite anecdote musicale. Hans Zimmer, du coup, le compositeur, comme je vous ai dit, il n'a pas eu le droit de voir l'ébauche du film, à quoi ça pouvait ressembler. Donc, il a composé le film à l'aveugle total. Il ne savait pas du tout de quoi ça parlait.
Waouh.
Et moi, je trouve ça fou quand on voit, par exemple, la fameuse scène de No Time for Cushion. à quel point la musique s'est bien imprégnée de la scène, alors que il en savait rien. Il avait juste, en fait, il avait des instruments, il avait une liste d'instruments à faire, une durée, et il fait ce qu'il veut. Ouais. C'est, après, est-ce que c'est Nolan qui s'est après calqué sur les scènes en mode dès qu'il y a vraiment un gros bruit de la part d'Hans Zimmer, là il nous met une scène d'explosion, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est magnifiquement bien fait.
Impeccable.
Vraiment.
On va pouvoir conclure.
Ciné 7, le top de Marvin.
Le dernier top. Le dernier top officiel. Ouais, et pas exactement. Des moindres, du coup, de trois excellents films. On va commencer par les femmes. Jade, je veux ton top 3 des films de Nolan qu'on a parlé ce soir.
Le Prestige, Inception et Interstellar.
Très bien, moi ça va être Inception, Le Prestige et Interstellar.
Et moi je vais avoir le même top que toi.
Donc c'est vrai qu'on a Interstellar en troisième pour tout le monde. Pourtant c'est un des plus populaires.
Ouais, c'est vrai, c'est un des plus reconnus.
Bah, moi je le trouve assez impressionnant, mais c'est pas mon film préféré et de très très loin. Déjà moi, pour mes films préférés, j'aime bien pouvoir poser mon cerveau. Ouais, c'est pas pour le cas ici.
Et en fait pour moi c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Sauf la dimension quantique où là il m'a complètement
la fin,
perdu.
Moi aussi, la fin j'ai vraiment eu.
Et c'est pour ça que je trouve qu'il a, il a ce bémol là qui le plombe.
En même temps, Kélian, si de manière générale tu parles pas avec des aliens, avec des livres, je sais pas ce que je peux te dire quoi. Enfin,
c'est vrai.
C'est
juste
la base.
Qui parle pas avec le fantôme qu'il y a dans sa chambre.
C'est juste la base.
En tout cas, de quoi parle-t-on la semaine prochaine? On n'en parle pas, puisqu'il n'y aura pas de semaine prochaine à proprement parler. Puisqu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sonne la fin de la saison de la radio. Nous sommes fin juin et nous avons donc conclu notre saison de Ciné 7. Alors avec un peu plus d'une quarantaine d'épisodes, on a vraiment été ravis de faire ça avec vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons conclure Ciné 7 dans les règles de l'art. Nous ne savons pas encore dans le détail quand.
Avec
ce sera
qui,
une surprise. Avec qui ou quoi, avec quel thème. Ce qu'on sait, c'est que, à mon avis, on va
ça
avoir...
Ça sera très différent.
Ça va être un gros plaisir.
Ça va être différent.
Un gros spécial.
On va se faire plaisir avec beaucoup de musique, avec des petites anecdotes. Avec, on va parler avec le cœur et on va faire un peu moins d'analyse.
J'aimerais bien
un peu moins de
débat. Des invités.
Vous inquiétez pas, on va pas vous parler de voyage dans le temps, de trous de verre ou d'Inception. Non.
Exactement. En tout cas, on reviendra avec un thème un peu plus léger. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la saison se termine pour nous. On espère que vous avez apprécié passer cette saison avec nous. En tout cas, nous, on a vraiment, vraiment aimé, on a même adoré faire cette expérience-là à vos côtés. Moi, personnellement, je me suis éclaté tous les dimanches soirs. Vraiment, j'y ai passé un plaisir intense, même si des fois, c'était un peu compliqué de pouvoir voir les films, de pouvoir travailler.
C'est du taf, hein, on dirait pas, mais...
En tout cas, ce qui est certain, c'est que on a vraiment adoré faire ça avec vous. On vous retrouve, on vous tient au courant, bien sûr. Restez connectés sur notre page Insta, ciné7-rks, pour retrouver toutes ces informations, pour nous retrouver pour la grande fiesta, on va dire ça. Hein, vraiment, ce sera la dernière de la grande fiesta.
Le special
pour,
one.
Le special one pour vous dire au revoir dans les règles de l'art. Et en tout cas, vous savez que... toutes les émissions de la saison, vous pouvez tout retrouver sur la page internet radio-rks.fr et sur l'application Radio-RKS aussi. Toutes ces émissions sont en podcast aussi sur Spotify et Deezer. Vous pouvez tout retrouver là-bas et vous refaire toute la saison quand vous serez nostalgique en plein mois d'août et qu'on vous manquera à mourir. Vous pourrez réentendre notre voix. En tout cas, on vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir.
Attends, on revient, hein.
On revient, mais là,
non, pas quand.
Mais là on conclut réellement. Et en tout cas, à bientôt. Merci à vous
au
deux.
Au revoir.
Prenez soin de vous et regardez des films.
Oui, regardez des films, retournez au cinéma, faites-vous plaisir avec le 7e art parce que vraiment, il y a de quoi faire. Et en tout cas, merci à vous deux. À bientôt, on se retrouve et restez bien connectés sur le 97 FM.
Pour la dernière, la
vraie. Voilà, à bientôt.